Bienvenue dans Prolongation. Dans cette émission, on revient sur l'auteur du mois. Ce mois-ci, Karl Polanyi, donc, qui n'a pas inspiré que Granovetter. On va voir une notion qu'on a peu développée, la marchandise fictive, et comment celle-ci est appliquée à la connaissance. Et c'est notamment ce qu'a fait Geneviève Azam dans son article très clair, La connaissance, une marchandise fictive, publié dans la revue du MOS en 2007 et que tu voulais nous présenter. Pour rappel, est-ce qu'on peut juste revenir sur la signification d'une marchandise fictive ?
Chez Polanyi, cette notion désigne trois biens. La terre, le travail et la monnaie. Ils sont qualifiés de fictifs puisqu'ils n'ont pas été produits dans le but d'être vendus. Ils ont été transformés en marchandises, ce qui a pour effet de les désencastrer, de les soumettre à la loi du marché au mépris des dimensions sociales antérieures. L'auteur le résume ainsi. La fiction de la marchandise permet d'interdire toute disposition qui empêcherait le fonctionnement effectif du mécanisme de marché. Le but de l'article, comme son titre l'indique, est de montrer que la connaissance peut être considérée elle aussi comme une marchandise fictive. Pour défendre cette thèse, l'autrice retrace l'histoire de la constitution des droits de propriété intellectuelle, qui, au même titre que le mouvement des enclosures pour la Terre, a modifié le mode d'organisation et de circulation des connaissances.
Ok, donc si je comprends bien, en fait, c'est de mieux appréhender la place de la connaissance dans la société.
Alors oui, si la question peut paraître étonnante, on ne peut négliger le fait que le capitalisme, depuis le XXe siècle, a vu son rapport à la connaissance changer. D'un bien commun, dont sa production est désintéressée, la connaissance devient privatisable.
Oui, mais certains expliquaient déjà cette transformation par la notion de capitalisme cognitif. Il relie étroitement la croissance et l'innovation, et la multiplication des brevets se comprend déjà dans un contexte où la concurrence se fait autour de l'exploitation des connaissances.
Alors, l'autrice se déclare ouvertement en désaccord avec ce récit, qui conduit à avoir une vision réductionniste et qui néglige les évolutions du libéralisme, les actions de la politique publique et comment la société se met au service de l'économie. Elle explore alors l'origine de cette transformation du rapport à la connaissance. Au XIXe siècle, il existait un refus, et même parmi les libéraux, d'établir des droits de propriété intellectuelle privés, de peur de créer des monopoles. On a donc considéré la connaissance comme un bien commun et, par extension pratique, la recherche fondamentale, en faisant une distinction entre invention et découverte. Le premier désigne ce qui relève strictement du génie humain, tandis que le deuxième est la mise en lumière d'un domaine ou d'une ressource qui existe déjà dans la nature, un bien commun se définissant par la non-rivalité et la non-exclusion d'accès à une ressource donnée. Sauf que dans les années 60, une nouvelle conception émerge, sacralisant maintenant les vertus du marché dans la gestion de ressources collectives. Dans le cas de la connaissance, a priori, les chercheurs n'ont pas d'intérêt à investir d'efforts dans la production de connaissances. En effet, ils n'ont pas d'incitation à s'engager, ne recevant aucune contrepartie de leurs efforts. Dans un modèle privatisé, les chercheurs qui découvrent le plus reçoivent le plus. Ce modèle libéral propose donc un nouveau cadre à l'action publique.
Très bien, et concrètement, qu'est-ce que ce nouveau cadre implique ? Tu aurais un exemple pour ne pas rester dans le flou ?
C'est dans cette optique que dans les années 80, avec le Bayh-Dole Act, que les États-Unis entament l'ouverture des brevets à la recherche fondamentale. Il rend possible pour les laboratoires de recherche et les universités la vente sous forme de droits exclusifs, l'exploitation de brevets à des entreprises privées. Partant d'une volonté de concrétiser les transferts de technologies, cette loi va radicalement changer l'usage des brevets, passant d'un droit d'exploitation à un droit d'exploration, et par là créer une industrie des droits de propriété. Pour bien comprendre l'enclosure, il faut savoir que jusque-là, l'octroi d'un brevet reposait sur un monopole temporaire d'exploitation d'une invention, délivré par l'État à un inventeur qui s'engage à divulguer une découverte profitable à la collectivité. Les brevets deviennent donc des droits de propriété intellectuelle. Le brevet devient octroi d'une part du marché de la connaissance. Ainsi se trouvent réunies les conditions du passage à l'économie de la connaissance. Une conséquence concrète de cette orientation s'illustre avec l'arrêt Chakrabarti en 1980. Une décision de la Cour suprême qui statue sur la brevetabilité du vivant. Suite à une demande de brevet de General Electric sur une bactérie, l'arrêt met fin à la jurisprudence en vigueur. La distinction que nous avons faite entre l'invention et la découverte ne tient plus. Le vivant n'est plus considéré comme un produit de la nature non brevetable, mais comme une intervention de l'homme pour être mis à jour. La rationalisation du droit et l'extension de ses dispositions à l'échelle internationale vont accélérer et globaliser la transformation de la connaissance en biens économiques marchands. Et en 1984, l'OMC fait rentrer le vivant dans les négociations commerciales internationales. L'Europe suivra cette orientation avec la directive 98-44 de 1998.
D'accord, on comprend les répercussions technicistes sur le plan juridique, mais le lien avec Polanyi, il est où ?
L'autrice parle plus volontiers de tragédie des enclosures plutôt que de tragédie des communs. La situation de millions de paysans du Sud, expropriés de leur savoir traditionnel, éliminés par l'obligation de recourir à l'achat de semences transgéniques, n'est pas sans ressembler au tableau que Polanyi dressait de l'Angleterre des enclosures, ou encore dans le domaine de la santé, des clauses bloquent la possibilité de produire ou d'acheter des médicaments génériques en interdisant le recours aux licences obligatoires.
Et c'est quand même paradoxal que le libéralisme en arrive à lui-même cloisonner la circulation des connaissances.
Cloisonnement est effectivement le bon terme. L'anticommun est une situation où plusieurs acteurs possèdent les fractions d'une ressource et s'excluent les uns les autres. L'OCDE s'inquiète d'un blocage de la circulation des connaissances. Par exemple, le cas du Golden Rice. Ce riz transgénique, riche en vitamine A, supposé aider à résoudre le problème de la faim dans le monde, est difficilement exploitable car son usage nécessiterait une négociation de licence avec une douzaine de titulaires de plus de 70 brevets relevant de 5 champs technologiques différents.
Bon, et si un tel arsenal juridique se déploie, c'est quoi le minimum pour participer à cette compétition? C'est d'avoir un service juridique international?
Oui, cette conflictualité se manifeste entre autres dans les rapports Nord-Sud, où les entreprises protègent leurs intérêts en établissant des barrières d'entrée à la concurrence. C'est particulièrement vrai pour les traitements anti-sida en Afrique du Sud, dont le brevetage par les entreprises multinationales du Nord bloque l'essor des producteurs de génériques indiens et devient un obstacle pour l'innovation et pour l'accès au traitement.
Pour conclure, on peut voir que la continuation de la notion de marchandise fictive de l'autrice, en plus de respecter l'intégrité du concept, Geneviève Azam réinjecte des faits dans la théorie. La continuation du concept de marchandise fictive permet une compréhension de problèmes contemporains posthumes à Polanyi. Elle permet aussi peut-être de déconstruire certaines représentations de la connaissance comme un bien commun, ou du moins l'historique de l'orientation du droit quant aux questions de droit de propriété de la connaissance et leurs implications concrètes dans leurs usages.